c'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûre de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue en ce beau dimanche dans la première émission de Secret livré de la saison 2020-2021. Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9. La dernière fois, on s'était quitté sur un excellent roman, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était La cloche de verre de Sylvia Plath, roman qui parle de bonheur non obtenu, d'expériences décevantes et de la difficulté de faire des choix. La narratrice, vous vous rappelez, se désolait avec force, colère et poésie de ne trouver aucune sorte de répit au sein même des rêves qui lui avaient été assignés par elle, mais aussi par sa mère, par la société et le reste du monde, finalement. Une bien sinistre façon de se dire au revoir, mais l'époque elle-même, si vous vous souvenez, n'était guère plus joyeuse ni enthousiasmante. C'était en mai dernier. On venait de passer 2 mois à vivoter dans un confinement qui n'en finissait plus de durer, et on se demandait entre autres si la radio reprendrait un jour. Eh bien, oui, vous avez votre réponse. Et ces sinistres adieux n'étaient en fait que des au revoir. On se retrouve aujourd'hui toujours plus curieux et curieuse que jamais, pour ma part en tout cas. Et pour ce premier opus de la saison nouvelle, on commence la liste qui va voir passer beaucoup de belles choses, à commencer par évidemment les livres. Et oui, les livres, c'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas ? Parce que quelqu'un a pris la plume un jour, et parce que quelqu'un d'autre, moi en l'occurrence, a lu ce que cette plume avait écrit et a décidé d'en parler pendant 1 heure comme une sorte de vieux coucou cassé qui radote. Le coucou cassé, c'est moi. Alors, pour bien commencer la saison, j'ai choisi pour vos petites oreilles un roman à peine plus joyeux que le dernier, mais après tout, les meilleures choses ne sont-elles pas les plus pénibles ? Eh bien non, mais je dis ce que je veux parce que c'est mon émission. Et oui, je suis revenue encore plus drôle que l'année dernière. Alors avant toute chose, je tiens à dire sur les ondes que cette émission contient des éléments liés au thème de l'agression sexuelle, un sujet qui, bien sûr, est susceptible de heurter certaines sensibilités. Donc voilà. Le roman dont on va parler aujourd'hui parle d'un homme, un professeur d'université du Cap, en Afrique du Sud, qui commence le roman en nous expliquant que selon lui, il a été choisi par une sorte d'entité divine, probablement Bacchus ou Eros, pour assouvir les passions et les désirs érotiques de l'humanité tout entière à travers sa propre vie sexuelle. Il a d'autres centres d'intérêt bien sûr, mais enfin ça c'est important et on verra par la suite pourquoi. Ce narrateur, qui ne parle pas à la première personne mais dont la focalisation est placée sur lui, il s'appelle David Lurie. C'est son petit nom, il décide un jour qu'une de ses étudiantes lui plaît bien et qu'il y a un rapport chargé entre eux, alors il se l'invente peut-être de toutes pièces, mais enfin, il décide d'agir et l'invite donc chez lui pour prendre un verre et discuter de sa classe, mais aussi faire l'amour. Ils couchent ensemble plusieurs fois, les scènes sont profondément gênantes, tant et si bien qu'on en grimace à la lecture. Enfin, en tout cas, ça a été mon expérience. David, le personnage principal, donc se poussant dans la chair de Mélanie, son étudiante, qui, elle, n'exprime aucun désir pour son corps à lui, ni pour sa personne, d'ailleurs. David utilise le levier de son pouvoir de figure professorale à des fins donc tout sauf académique, ni plaisante pour Mélanie. L'histoire qui émerge n'est cependant pas celle d'une agression sexuelle, c'est plutôt le récit d'une aventure inappropriée entre un professeur et une étudiante. David, qui est célibataire, divorcé, estime finalement n'avoir nui à personne, trompé personne, ni forcé personne. Après, il sait pertinemment qu'il n'est pas d'un âge attirant pour Mélanie, et que ce n'est pas le seul problème. Il sait que l'acte sexuel n'a pas été particulièrement savouré. Il se doute enfin qu'il, en fait, n'était absolument pas désiré. Mais il se dit qu'il est trop vieux pour changer, et puis qu'elle était vraiment très jolie. Par la suite, David se voit contraint de prendre part à une sorte de conseil académique, entre guillemets, en présence du staff de l'université. Il estime que ce procès est une sorte de mascarade culpabilisatrice et hypocrite, le forçant à demander pardon pour un acte dont il admet finalement toute la responsabilité, sans aucune réserve. C'est la contrition qui lui pose problème. David part en disgrâce de l'université du Cap pour aller vivre un temps avec sa fille Lucie, qui habite dans la campagne sud-africaine, qui vit seule dans une zone très inhospitalière. Lucie avait une partenaire, on comprend presque à demi-mot. Elle est homosexuelle et on comprend surtout que son père trouve que cela représente sinon une déception, à minima une sorte de preuve d'abandon. Finalement, comme si se refusant aux interactions amoureuses avec les hommes, elle avait déclaré forfait. Lucie est aidée à la ferme de Petrus, un homme noir qui l'aide. Pour résumer, David et Lucie ne se comprennent pas. David a du mal à saisir pourquoi elle s'entête à vivre comme une paysanne, loin de ce qu'il considère lui être la civilisation. On note d'ailleurs qu'il est passionné de Byron et qu'il entreprend d'écrire un opéra sur sa vie, ce qui est assez comique. Et elle le trouve ampoulé, hors sol, loin des réalités, tous ces qualificatifs qu'on peut imputer au professeur d'université. Elle lui renvoie en fait par sa voix, par son regard individuel et spécifique, tout un faisceau de réactions naturelles qu'ont en fait les lecteurs et les lectrices du roman. Un jour, David aperçoit trois étrangers, deux hommes et un adolescent qui approchent de la maison de Lucie. Ils sont noirs. Lui et sa fille se font au final attaquer. Elle est violée. Lui est enfermé dans la salle de bain, rendu impuissant et incapable d'aider sa propre fille. Et on lui verse du liquide de démarrage ou de l'essence sur lui et il est brûlé vif. David n'est donc pas dans la pièce, il est enfermé inconscient, mais lorsqu'il en sort, libéré par Lucie, il sait. Elle est mutique, elle est renfermée, elle est fatiguée, elle ne réagit plus à rien, elle est devenue apathique. Elle renvoie cette image d'une personne brisée. La tragique ironie qui veut que la fille de David Lurie soit victime de ce qu'il a fait lui-même, d'une certaine façon, cette ironie cinglante, eh bien, elle ne lui est pas étrangère. Ce qui l'est, en revanche, c'est la réaction de sa fille. Il ne comprend pas, tout simplement, qu'elle n'aille pas voir la police. Inutile, lui dit-elle, mais il ne comprend pas, il s'entête, il lui répète à merci que justice pourrait enfin être faite et que cela est important. Lui voit l'agression comme une faute qui peut être réparée, un péché qu'on saurait absoudre, et il comprend l'agression comme il comprend le reste du monde, c'est-à-dire comme un homme, comme un universitaire, un penseur. Il ne perce ni ne percera jamais la muraille qui s'est érigée entre sa fille et lui, leur corps même appartenant à des mondes différents maintenant. L'histoire se déroule dans une Afrique du Sud post-apartheid qui exprime toute la récente histoire dans chaque recoin du récit. Petrus, par exemple, l'homme noir qui aide Lucie, est vu avec méfiance par David, qui voit en lui une sorte d'opportuniste obséquieux qui joue au simplet, en attendant simplement que Lucie abandonne et lui lègue ses terres. Les agresseurs, noirs eux aussi, sont perçus comme tels, c'est-à-dire des hommes noirs. Ce sont des hommes noirs qui, selon David, sont venus punir les blancs, les punir d'avoir subi des années de ségrégation et de violence à travers le corps de Lucie. David enrage d'ailleurs d'entendre sa fille accepter ce tribut, qu'elle explique finalement comme une sorte de loyer à payer pour le droit de rester sur ses terres inhospitalières en tant que femme blanche. Le roman regorge d'allusions directes et indirectes à cette tension, tout sauf oubliée, entre les différents habitants de l'Afrique du Sud, et ce sera un thème qu'on verra dans l'émission.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
to the valley, I'm gonna set the prairie on fire. I'm gonna crack a match and I'll be satisfied. There's a little old house that's standing in the middle of there. An old friend of mine and a girl so pretty and fair. And as the heat will rise into the night, to warm my heart and dry the tears I cry. Shining, shining, shining and running wild. Burn, 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 prairie fire. I'm going where the grass is green and the sky. Water is good and clean as morning dew. A long time ago that prairie used to be my home. Today I'm going back with a bottle of acetone. Smoke gone blow and cover. And I'm gonna sing a lonesome lullaby. Shining, shining, shining and running wild. Burn, 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 prairie fire. Picking up a match and saying my last goodbye. Standing there to watch the prairie fire.
Alors ça fait 4 longs mois qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, et vous avez peut-être oublié comment on opère ici à Secret Livré. Je dis on, mais je suis absolument toute seule. Seule au milieu de l'immensité du silence qui m'entoure, mais pas pour longtemps. Je vais occuper ce silence en vous parlant de l'époque à laquelle ce livre a été écrit. C'est ce que je fais à chaque fois, parce que le contexte informe l'art autant que l'art informe le contexte. D'abord, quelques mots sur l'auteur. John Maxwell Coetzee, de son petit nom, est né le 9 février 1940 en Afrique du Sud, au Cap précisément. Vous savez, cette ville portuaire située sur la côte sud du pays, initialement capitale de la colonie du Cap, devenue, après l'abolition de cette colonie, la capitale de la province dite du Cap Occidental. Depuis 1910, elle est également capitale parlementaire du pays, et pour la plupart des gens, elle est la ville la plus connue d'Afrique du Sud et surtout associée à la longue et tumultueuse histoire de la nation sud-africaine, longue et tumultueuse comme le sont d'ailleurs toutes les histoires nationales, puisque c'est non loin de là, sur Robben Island, que sera emprisonné Nelson Mandela, avant d'être transféré dans une autre prison, dans la province du Cap Occidental, près de la ville de Pearl. Non, de Parl. Disclaimer, je vais très mal prononcer les mots en afrikaans, parce que c'est dérivé du néerlandais et que je ne sais pas parler néerlandais. Donc, comme la dernière fois où j'avais complètement abîmé les mots italiens et les mots allemands, eh bien ça va faire une petite rebelote. Finalement, donc pour le petit John, dont on parle aujourd'hui, et non pas de mon accent, le Cap veut surtout dire maison. Il y a grandi, au sein d'une famille boer, c'est-à-dire qu'ils sont blancs, descendants d'une grande vague d'immigration, principalement néerlandaise du coup, arrivée en Afrique du Sud au XVIIe siècle. Le terme boer est chargé, puisque pendant plusieurs conflits qui opposent ce groupe à d'autres entités, qu'elles soient britanniques ou originaires d'Afrique, le mot prend en partie son importance au cours d'affrontements. Un slogan populaire d'ailleurs durant une période, la période d'apartheid, qui comme vous le savez donc sépare la population selon leur couleur de peau de façon violente et humiliante, eh bien ce slogan était « One Boer, One Bullet ». Slogan un peu moins pacifiste finalement, utilisé par des militaires noirs, noirs radicaux qui luttent pour l'obtention de leur liberté, et slogan qui signifie un Boer, une balle. Bon bah comme ça c'est clair. Alors voilà un des aspects en toile de fond de la jeune vie de Coetzee, qui grandit donc au Cap avant de partir à l'âge de 20 ans pour l'Angleterre, dans le but d'y étudier la linguistique et l'informatique. Il n'étudiera donc jamais à l'université du Cap, où se déroule une partie de l'intrigue de son roman Disgrace. Il n'est pas rare finalement que les artistes explorent dans la fiction les lieux symboliques que eux n'ont jamais eu l'occasion de visiter de leur vivant, et que Coetzee finalement ne fait pas expression, et je trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans. Le petit Johnny, comme j'aime à l'appeler, c'est pas vrai, mais c'est pas grave, comme le petit Johnny n'exprime pas, ouvertement du moins, tout de suite, son désir d'être écrivain. Il termine ses études d'informatique appliquée à la linguistique et devient programmeur pour IBM. Un parcours qui me rappelle ma propre vie, car certains ou certaines le savent peut-être, je fais du code cette année, et ce parallèle me donne finalement beaucoup d'espoir pour la suite. Comme beaucoup d'autres artistes, c'est une aide extérieure qui permet à Coetzee de sauter le pas, ou du moins un pas, important dans la construction de son identité littéraire, puisqu'il obtient une bourse d'études qui lui permet de faire une thèse. Il l'a fait à l'université du Texas, à Austin. Il la termine et la soutient en 1969, à presque 30 ans. Et cette thèse porte sur Samuel Beckett. Il se met finalement donc à écrire et finit par obtenir non pas un Booker Prize, vous savez c'est une récompense littéraire quand même très connue, mais bien deux Booker Prizes. Et aussi un petit Nobel de littérature, voilà, encore quelqu'un de très peu talentueux. Si vous avez suivi ce parcours, plus ou moins accidenté ou au moins pas linéaire, vous avez sans doute remarqué une chose importante, Coetzee a quitté son pays. Il en est parti à 20 ans, un âge où l'on pense encore pouvoir tout faire, avoir le temps pour tout, explorer le monde et rentrer comme Ulysse. Pour parler de façon moins lyrique et ampoulée, si vous me le permettez, il est parti jeune et il n'y est pas revenu. Il s'est installé en 2002 à Adélaïde, où il a même obtenu la nationalité australienne, celle de son pays d'adoption donc. Ce départ a forcément eu plusieurs conséquences sur l'écriture de Coetzee, qui découle naturellement de son rapport au monde et de son rapport aux mots, ce n'est donc pas étonnant. D'abord, il fait état de cette faille identitaire qu'ont les gens qui partent. Il voit l'Afrique du Sud, son histoire, sa culture, ses laideurs et ses beautés, pareilles, à travers deux paires d'yeux. La paire de son enfance, de son adolescence, et puis celle de sa vie d'adulte. On ne leur accorde jamais la même valeur. Mais il est faux de penser qu'on assigne à la vision adulte une plus grande importance, comme si les vapeurs de l'enfance s'étaient enfin dissipées, et comme si avec l'âge venait une clarté objective que masquent les naïvetés de jeunesse. Combien de films d'ailleurs, combien de chansons, de peintures, de photographies, combien de poèmes et de romans se sont vus assigner la grande mission de capturer, après les faits, après la fin, après l'heure, la saveur ineffable de l'enfance. Coetzee a aussi un rapport spécifique à la langue, un rapport issu de la division de son pays. L'Afrique du Sud, vous le savez, est peuplée de différentes ethnies qui ne parlent pas toutes la même langue. Et l'hymne national sud-africain est une merveilleuse illustration de cette pluralité linguistique, puisqu'il est lui-même mélange de... Alors attention à mon horrible prononciation... Die Stem van Suid-Afrika. Allez regarder sur internet parce que vraiment j'ai honte. Qui était l'ancien hymne national, et deux, attention, en voilà un autre, Nkosi Sikelel iAfrika, c'est affreux, ma prononciation évidemment, pas le titre. Et ça, c'était, je vais pas le reprononcer, mais c'était un chant liturgique adopté et popularisé par les mouvements anti-apartheid de la fin du XXe. Les paroles de l'hymne actuel, sont en 5 langues différentes, parmi les 11 qui sont... parler encore aujourd'hui en Afrique du Sud. Il y a tout d'abord l'anglais et l'afrikaans, qui est donc une langue fille de l'ancien néerlandais. Mais il y a aussi le Xhosa, qui est parlé par 8 millions de locuteurs, le Zulu, 28 millions pour lui, et le Sesotho, qui est une langue bantoue, qui est originaire d'Afrique du Sud. Et tout ce joyeux patchwork, finalement, crée un hymne surprenant pour des pays comme nous, par exemple, qui avons la Marseillaise, qui évidemment résonne de façon bien différente.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Lay, country, lay on my mind. For deep in
Maintenant, parlons de l'œuvre, parlons du livre. Disgrace est paru pour la première fois en anglais en 1999, 5 ans après ma naissance. Ça n'a aucune importance pour vous, mais je le répète, c'est mon émission et donc je dis tout ce que je veux. D'ailleurs, Disgrace est écrit en code binaire et Cuddy est une brioche géante, couleur lavande, qui avance en faisant des grands bonds rythmés. Voilà, maintenant qu'on a bien ri, parlons sérieusement. Il y a plusieurs choses qui marquent quand on lit Disgrace, et je vais en mentionner quelques-unes dans cette analyse. Je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais commencer par citer une critique d'une youtubeuse que j'ai regardée avant-hier en préparant l'émission. Sa chaîne s'intitule One Book One, et elle commence sa vidéo sur le roman en disant, je cite, « Ce livre m'a déplu, et c'est pour ça que je vais y passer plus de temps que sur les autres livres. » Déjà, ça m'a interpellée parce qu'elle n'échappe finalement pas à la règle observable partout et au quotidien qui fait qu'on parle plus aisément de ce qui nous fâche que de ce qui nous charme. Voilà pour la remarque pseudo-philosophique, mais que dit-elle cette dame du livre ? Qu'est-ce qui lui a tant déplu ? Eh bien, tout simplement, c'est David Leary, le personnage. Elle le trouve détestable. Elle est agacée de la vision que David a des femmes, et qui nous est servi via cette voix narrative entre deux, à la troisième personne, mais focalisée sur David à travers ses yeux. Jusque-là, bon, on est d'accord, moi non plus je ne l'aime pas beaucoup, David. Elle poursuit néanmoins et affirme que, selon elle, le roman ne fait pas assez cas de la vilainie du personnage. À la lecture d'une telle histoire, évidemment, eh bien je la comprends, on a envie de rétribution, c'est assez naturel. Il serait tout à fait plaisant, finalement, d'être témoin d'une épiphanie de la part de David. Il se rendrait compte, tout à coup, de ce qu'il a fait, et surtout, de toutes les structures qui l'y ont poussé, qui lui ont autorisé. Mais le roman est réaliste. Je ne crois pas qu'il soit plus pessimiste ou plus cynique qu'un autre, mais il n'est pas non plus naïf, ni d'ailleurs moralisateur. Il est plutôt, si on peut dire ça, moral. C'est-à-dire que c'est dans la narration elle-même, dans la structure du récit, dans les enchaînements et dans les apparentes coïncidences, eh bien, c'est dans tout cela que se trouve le jugement, ou au moins les pistes qui pointent vers ce jugement, qui n'est jamais énoncé comme tel dans le livre. Alors, non, David n'est pas tué, David n'est pas envoyé en prison, David ne subit pas de révélation soudaine, cataclysmique qui le plonge dans une stupeur dévastatrice pour le restant de ses jours. Non, il reste finalement plus ou moins égal à lui-même jusqu'à la fin. Mais dans le choix des mots, dans le choix de ce qui arrive à sa fille, dans l'ironie absolument tragique et cinglante du renversement des positions, David étant tout à coup assimilé au père de Mélanie, le père d'une fille qu'un autre homme a décidé de violer, eh bien, dans tout cela et dans bien d'autres éléments du livre, David meurt un peu quand même. David est ce qu'il représente de privilège, de domination historique, de certitude, qui ne passe finalement pas l'épreuve du temps. À la fin de sa vidéo, la dame, je n'ai pas trouvé son nom, la dame de la chaîne, affirme, je cite, « Je ne savais pas en fait ce que ce livre essayait de me dire. » Alors bien sûr, c'est facile de justifier n'importe quelle histoire dérangeante par un grand « Oh, vous savez, la littérature peut tout dire, parce qu'elle ne doit rien à personne. » C'est facile et à la fois je pense qu'il y a dans le roman de Cuddy des clés de compréhension qui permettent, à défaut de savoir ce que le roman essaye de dire, au moins, permettent avec certitude de savoir ce qu'il nous dit. Alors, pour dire quelque chose, on emploie des mots. Jusque-là, vous me suivez, je pense, c'est le matériau unique des livres. C'est ce qui leur procure leur immense potentiel, reçu différemment dans chaque esprit de chaque lecteur, et c'est à la fois ce qui fait leur limite. Où ils n'ont que pour se défendre, que les mots. Alors, quoi de plus cocasse, si j'ose dire, qu'un livre qui pointe vers les limites même du langage, et qui fait de cette mise en lumière un élément central de sa narration. En gros, Disgrace nous montre que la langue ne peut pas tout. La langue, elle est liée à l'histoire, Et quand l'histoire est sombre, les mots le sont aussi. C'est quelque chose que David Lurie a du mal à saisir, bien qu'au fond, je crois qu'il le sente. Car David ne veut pas parler du réel, du présent, qu'il est en train de vivre en Afrique du Sud. Non, lui a pour objectif d'écrire un opéra sur Byron, un poète britannique de la fin du XVIIIe siècle. Il veut employer sa capacité de langage pour désigner des choses qui sont mortes depuis longtemps. Autrement dit, par sa parole, David est ancré dans le passé. Il est d'ailleurs professeur de communication à l'Université du Cap, mais il déteste ce rôle, il n'aime pas son travail, il n'y prend aucun plaisir. Il ne prend aucun plaisir à enseigner ce qu'il considère être une sous-matière à des élèves qu'il considère être ennuyés et inintéressants. Il préférerait leur enseigner le canon. Et on sait tous et toutes ce que le canon incarne, c'est-à-dire les dinosaures du passé, celles et ceux, et surtout ceux, qui ont fait l'histoire. L'histoire qu'on écrit dans les livres, celle qu'on laisse perdurer, cette espèce de gros TGV qui écrase les petites charrues et les petits piétons. En gros, David est nul pour enseigner la communication à ses élèves, mais ce n'est pas sans raison. Ils habitent l'un et l'autre dans des mondes différents. Ce n'est pas discernable à l'œil nu, bien sûr, ils marchent dans la même pièce, ils portent des vêtements similaires, et pourtant, la rupture est on ne peut plus profonde au fond. Hors de l'enceinte de l'université, David a du mal avec la communication en règle générale. Il ne parvient pas à communiquer avec sa fille, pour cause de différences insurmontables, ni avec Petrus, l'homme qui aide Lucie à la ferme et qui se montre, selon David, tantôt mielleux et faux, tantôt froid, belliqueux, presque violent, agressif. David exprime d'ailleurs lui-même ses doutes quant au matériau même de son langage après une rencontre avec Petrus. Il réfléchit et se dit que Petrus a sans doute une histoire intéressante, une histoire à raconter, et qu'il aimerait bien l'entendre, mais, je cite, « de préférence pas réduite à l'anglais ». Quelques lignes plus loin, on trouve cette réflexion, je cite encore, « de plus en plus, David est convaincu que l'anglais n'est pas un médium adapté à la réalité de l'Afrique du Sud ». Une phrase très forte, très importante dans le roman, mais qu'on peut survoler si on n'y prend pas garde. C'est une phrase qui, elle-même, avoue la partialité de l'anglais pour des expériences et une histoire qui lui sont propres. Et l'histoire de la nation sud-africaine n'appartient pas à cette catégorie. Cette phrase, vous l'aurez compris, fait référence au passé, et ce passé qui vient hanter le présent. Le hanter de façon plus terrestre, c'est-à-dire le limiter par le simple fait d'avoir existé, par le poids qu'il représente ce passé. Et David l'incarne, en quelque sorte. Il profite de la faiblesse d'une femme, une étudiante noire, en tant que lui, homme blanc, universitaire, il profite de sa position pour la violer, pour ne pas avoir à s'excuser plus avant que de dire « oui, c'était moi », et il profite de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Dernière chose sur le langage, il est intéressant de voir que le viol commis par David n'est pas appelé un viol, justement. Pas par lui, en tout cas. Et pendant le roman, on a peine à trouver cette appellation. Et pourtant, l'acte nous est montré sur la page, de façon, je vous l'ai dit, dérangeante, très graphique, personnellement qui m'a fait serrer les dents et faire la grimace. À l'inverse, l'agression que subit sa fille, Lucie, son viol à elle, il n'est pas décrit, il n'est pas montré, il n'est pas raconté, mais il est appelé par ce mot, viol, avec tout le poids, toute la force, toute l'horreur qu'il contient. Et ce mot pèse tout aussi lourdement sur le lecteur. Il pèse encore plus lourd sur David, car il s'agit de sa fille, bien sûr, et on a dit qu'il ne ressentait pas vraiment de remords vis-à-vis de sa victime, Mélanie. Ce qui est intéressant, c'est que le poids assigné à ces deux actes horribles, l'un décrit avec détail, l'autre simplement désigné par un seul et unique mot à quatre lettres, en français comme en anglais d'ailleurs, avec le mot « rape », eh bien, ce poids pointe du doigt la pondération différente des mots. On le sait tous, évidemment, hein. Le mot « viol » en vaut mille autres. Il a compressé dans son unique syllabe ce que des milliers d'autres ne pouvaient pas conjurer, même en s'y mettant tous ensemble. On peut étendre cette analyse à bien d'autres mots, tout aussi chargés, dont certains, bien sûr, font partie du vocabulaire du racisme, de l'oppression raciale, de la ségrégation et de l'apartheid.
Secret livré.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Alors penchons-nous maintenant sur la voix narrative du roman. Il s'agit, on l'a dit, d'un roman avec un narrateur hétérodiégétique, mais à focalisation interne sur David. En gros, on voit à travers lui, même s'il est désigné à la troisième personne. La subjectivité de David, une de ses caractéristiques maîtresses dans l'usage qu'il en fait, notamment pour justifier les actions qu'il commet, eh bien cette subjectivité se fond avec la supposée objectivité de la voix narrative. On en a déjà parlé dans cette émission, c'est encore une fois une version de ce que l'on appelle communément les unreliable narrators, les narrateurs non fiables. Ce qu'ils nous disent, eh bien on ne peut pas vraiment le prendre au pied de la lettre. Ça fait partie de la richesse du roman, cette possibilité de parler avec une voix dont on sait qu'elle-même raconte des cracks. D'ailleurs, une des citations les plus parlantes sur ce sujet est la suivante dans le roman. Il s'agit de l'ex-femme de David, qui s'appelle Rosalind, qui lui dit « You are always a great self-deceiver, David. A great deceiver and a great self-deceiver. » En français, « Tu as toujours su te cacher la vérité, David. La cacher aux autres et te la cacher à toi-même. » David est le produit, on l'a dit, d'une histoire qui l'a avantagée, qui lui a fait comprendre, et plus que ça, sentir dans chaque particule de son être qu'il avait raison, qu'il pouvait se permettre. Se permettre de quoi? Eh bien, se permettre de tout. Il se raconte la même histoire que la nation a écrite durant de longues années, et mis face à une réalité tout autre, il continue d'annonner les mêmes refrains. Et cette auto-illusion, d'ailleurs, est un concept intéressant, je trouve, que Cuddy examine lui-même. Visiblement, il le trouve intéressant aussi, puisque dans une interview, il cite les propos de l'auteur russe Dostoïevski, qui, lui, s'oppose théoriquement à la vision de Rousseau, qui a été popularisée par les fameuses confessions. Cette vision selon laquelle il suffirait presque d'être honnête avec soi-même, de le décider un jour, voilà, comme ça, d'être vraiment honnête, et puis de coucher tout cela sur le papier. Dostoïevski l'affirme, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce serait trop facile. Il y a en effet mille façons de prétendre être honnête avec soi-même, autant de façons de ne pas l'être, et surtout mille et une raisons qui font que, même en le voulant, eh bien, c'est impossible. Que veut dire l'honnêteté quand on est juge et partie? Se connaît-on vraiment? Toutes ces questions qui se posent à nous tous et toutes, en vain, j'en ai peur. En gros, Cuddy le résume ainsi, le fait d'être opaque à lui-même, voilà ce qui anime l'homme et son désir. Nous sommes condamnés à nous ignorer tous un peu. D'ailleurs, le malheur de David Lurie, c'est de cesser de s'ignorer. Quand il est forcé de regarder qui il est, eh bien, il se rend compte que ce qu'il est, c'est un homme en disgrâce. À mesure que la dynamique de sa vie s'enraye en effet, d'abord avec l'agression de Melanie Isaacs, puis à la campagne avec Lucy et Bev Shaw, la vétérinaire d'apparence modeste et simple qui remet en cause tout un pan de son système de pensée, eh bien, à mesure que cette dynamique s'enraye et s'essouffle, David semble croire de moins en moins aux piliers qui soutenaient jusque-là son existence. Il est pris de nombreuses crises d'ailleurs. De nombreux marqueurs viennent ponctuer son récit, de nombreuses preuves de sa propre désillusion et de sa tombée en disgrâce. À la fin du livre, il se lamente, par exemple, de ne pas retourner en héros au Cap, en écrivain accompli, son opéra en poche. « Il aurait été plaisant, dit-il, de retourner à la société en tant qu'auteur d'un excentrique petit opéra de chambre. Mais cela n'arrivera pas. Désormais, ses espérances doivent être plus tempérées. » Alors juste pour le plaisir, la définition du Larousse de tempérance est la suivante, je vous la lis. Une des quatre vertus morales, dites vertus cardinales, qui disciplinent les désirs et les passions humaines. Alors, prenons un instant pour se rappeler ensemble les débuts de David à l'entame du roman qui se félicitait de coucher avec une prostituée dont l'étrangeté conjuguée à la disponibilité satisfaisait ses ardeurs sexuelles. Puis, une fois que Soraya s'était rendue à la fois indisponible parce qu'elle n'était plus tout à fait étrangère, eh bien, on se souvient aussi que David avait alors laissé déferler son érotisme violent sur Mélanie, l'étudiante. On était alors bien loin de cette vertu cardinale, dont d'ailleurs on peut opposer le registre un peu biblique avec ironie à l'évocation de la mythologie grecque que mobilise David quand il parle de l'érotisme et de la figure d'Eros, bien sûr. En effet, David est finalement à la fin comme un chien soumis, une sorte de bête abîmée par le temps et ses propres expériences, ses propres réalisations aussi. Même s'il n'y a pas un grand coup près de la justice, eh bien il y a une forme de souffrance étendue sur la durée pour David. Ses expériences vécues tout au long du roman l'abîment et font de lui une sorte de chien, comme je viens de le dire. Et je dis ça parce que les chiens sont une figure importante dans le roman, sur la couverture de mon édition d'ailleurs, eh bien c'est un chien errant que l'on voit sur une route de terre en couverture. On est rappelé de la ferme de Lucie et on est rappelé de tous les chiens qu'on rencontre dans le livre. Le chien est une figure emblématique dans le roman, il sert à la fois de témoin des événements. Par exemple, lorsque les trois agresseurs viennent attaquer David et Lucie, ils abattent aussi, sans raison apparente, les chiens de la ferme, dont une chienne à laquelle David s'était particulièrement attaché. Quand David rencontre Bev Shaw, donc la vétérinaire du coin, elle ne lui inspire que dégoût, au mieux indifférence, et puis il la voit euthanasier un chien dans son cabinet. Au départ, il voit dans le geste un acte de courage presque héroïque, une femme qui sacrifie son désir d'aider les animaux, voué par les circonstances à plutôt les mener à la mort, mais en fait, à mesure qu'il apprend à connaître Bev et le fonctionnement du cabinet vétérinaire, il découvre avec une lente horreur qu'un peu de joie a peut-être eu le loisir de se nicher dans l'acte meurtrier de Bev. En gros, les gestes rassurants et apaisants de la femme, qu'elle décrit comme des cadeaux offerts aux bêtes avant leur dernier souffle, eh bien, tous ces gestes sont perçus par David comme de l'hypocrisie, presque comme du sadisme, limite. Il se rend également compte, avec horreur, qu'on empile les carcasses des chiens euthanasiés dans de grandes bennes, avant de les emmener une fois par semaine à être incinérés. Il se met à suivre le camion, puis arrive sur place et découvre, avec encore plus de dégoût, qu'on casse les os des chiens morts pour les faire entrer dans les conduits plus facilement. Il ne supporte pas cette image et se charge de faire le trajet lui-même, de s'occuper de ce rituel post-mortem, et il essaie, dans sa petite mesure, de restituer aux bêtes leur dignité. Il supporte mal le travail, néanmoins, un jour, il s'arrête même pour vomir sur le bord de la route en chemin. Au début du roman, face au tribunal de l'Université du Cap, celui qu'on lui fait subir pour son acte envers... celui auquel il est forcé de participer à cause de son viol de Mélanie, qui est encore, au moment des faits, vécu ou perçu comme une espèce d'aventure plus qu'un viol, eh bien David s'obstine. David accepte la responsabilité, oui, mais pas de s'excuser. Il est trop vieux pour changer, il est trop vieux pour se soigner. La citation à ce moment-là est « You can't teach an old dog old tricks ». On n'apprend pas à un vieux chien de nouveaux tours. Variante du singe et de la grimace qu'on connaît tous et toutes en France. Cette comparaison avec l'animal prend un tournant bien moins fier pour David à la fin du roman, cela dit, lorsqu'il est obligé de mettre fin au jour du chien à qui il s'était attaché. L'analogie ne manque pas de nous faire tiquer à la lecture, d'ailleurs, c'est comme un abandon, un aveu de défaite et une sorte de mort pour David lui-même.
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Et maintenant, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis au mois prochain. J'aurai une invitée formidable qui discutera avec moi d'un autre roman assez sombre, qui me tient très à cœur et qui lui a beaucoup plu aussi. Cela signifie deux choses. Premièrement, vous aurez plus de contenu d'émission. Et puis, vous n'aurez pas à m'écouter parler seule autant. Même moi, je me fatigue, croyez-moi. Mais c'est la vie, comme dit Emily in Paris sur un ton très gênant. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la page de Radio Campus Paris. C'est Secret Livré, c'est au 93.9 FM et c'est un dimanche par mois à 19h. Bisous, bisous.
Like a window in your heart. Well, every- everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason.